Streamez tous vos sketchs préférés sur l'appli Rire et Chanson. Des milliers de sketchs en streaming, sans limite, gratuitement, sur les nombreuses radios digitales Rire et Chanson.
Le journal du rire, l'intégrale. Spécial les duos impossibles de Jérémy Ferrari.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast du Journal du Rire. Il y a quelques semaines, nous recevions à nos côtés non pas un artiste, mais plutôt un trio. Leur humour est à la fois différent et complémentaire. Dernièrement, ils étaient à l'honneur sur C8 pour une nouvelle édition des Duos Impossibles. L'occasion de découvrir leur humour absurde et cynique. Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplain et Arnaud de Samer étaient mes invités. Si vous avez raté ce moment, voici tout de suite l'intégrale. Salut Jérémy.
Salut.
Salut Baptiste.
Salut.
Salut Arnaud.
Salut Guillaume.
On va vous retrouver jeudi soir sur C8 pour la 9e édition des Duos Impossibles. Alors c'est devenu un rendez-vous incontournable puisqu'au cours de cette soirée, le public découvre des sketchs inédits qui sont écrits spécialement pour l'occasion et c'est d'ailleurs toute la force de ce programme. En quelques mots, tout d'abord le point de départ. À la base, cette idée était née comment, Jérémy ?
Parce que je voyais beaucoup de galas télé humoristiques, donc de galas d'humour. Je voyais pas mal de trucs. Et puis je me disais, c'est dommage parce que on n'a jamais un programme 100% inédit. On peut avoir une présentation qui est écrite, qui est inédite, mais on n'a pas 100% d'inédit. On avait des programmes un peu hybrides, ça existait déjà, où t'as moitié d'inédit, moitié de mecs qui viennent faire le meilleur sketch de leur spectacle, mais 100% inédit, ça existait pas.
On avait les inédits Zidane aussi.
Et donc,
mettre un jingle batterie gag, c'est fait.
Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de faire un programme vraiment complètement inédit, un truc où les gens n'ont jamais joué le sketch ailleurs, ils le rejoueront pas ailleurs, et on propose un programme. Voilà, il y a le côté un peu éphémère comme ça du truc. Ouais. Je le trouve cool. Les gens savent du coup qu'on arrive aussi sans filet, donc il y a un côté un peu comme on avait dans Demande qu'à en rire où on a écrit un sketch et puis on va voir si c'est drôle.
Ouais, il y a une vraie mise en danger pour le coup.
Il y a une mise en danger. Ouais. Ça permet aux humoristes aussi de venir faire des choses un peu différentes.
Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir les gens sans filet.
Incroyable que tu sois pas. tu devrais être plus aux grosses têtes normalement.
C'est pas qu'il y ait pas un recul sur toi-même. Il y a pas un recul sur toi-même.
Je l'ai trouvée très bonne celle-là.
Ouais, non, elle était bien.
Alors justement, le thème cette année, c'est le changement. Est-ce que Arnaud de Samer, est-ce que Jérémy, est-ce que Baptiste ont changé depuis la première édition ?
Non, mais ils ont des enfants, alors ils savent ce que c'est le changement. Je l'ai fait avant toi.
Ouais. Qui est à l'origine de ce thème, le changement ?
Non, pour le coup, c'est avec Artus, puisque cette année, Arnaud et Baptiste ne co-présentent pas avec moi. On a fait un sketch, ils co-présenteront de nouveau à l'édition numéro 10. C'est vrai que donc du coup, là, cette année, on l'a trouvé avec Artus, le thème. Après, on prend toujours des thèmes ouverts et fermés, c'est-à-dire c'est une vanne, non Arnaud ?
Non, le
but c'est de faire un thème surtout pour la présentation. Après, si les gens qui font les sketchs, ils ont envie de s'en servir, ils peuvent, mais on laisse toujours assez open, quoi, parce que
c'est le prétexte.
Oui, c'est un prétexte, quoi. Mais la plupart du temps, c'est plutôt l'histoire qui va driver les deux coprésentateurs, quoi. Là, en l'occurrence, c'est Artus qui veut absolument essayer de me changer parce qu'il trouve que je suis trop dark, trop sombre, et qu'il veut me rendre un peu plus léger, un peu plus pétillant, un peu plus coloré.
Alors, il y a des sketchs, il y a des duos, il y a aussi des sketchs ensemble, vous trois, des sketchs collectifs. Comment ça se passe dans l'écriture ? Qui fait quoi ? Comment ça s'organise ?
Oh là là. C'est les rôles sont bien déterminés. Hein.
Ah bon ? Tu veux dire sur la partie costume ?
Non, mais Baptiste, c'est une vraie mitraillette à blagues. Il mitraille.
Tu sais que pour les gens qui n'ont jamais vu des duos, qui t'entendent prendre cette voix.
Oui. Parce que ça donne envie. Hein.
Pas, ouais.
il a pris un sacré coup de vieux, notre sa mère.
Parce que généralement, ce que j'aime bien arriver avec des idées. Je leur propose l'univers Disney, tout ça. Je maîtrise vraiment très très bien. Donc, je suis plus au fait que les deux. Mais généralement, j'aime bien arriver avec l'idée. J'aime bien les faire rigoler. J'aime bien faire rigoler Jérémy jusqu'au point où il craque et il cède, comme les hérissons. Je dis, oh, l'ambition, ça pourrait être des hérissons qui traversent la route. Jérémy a fait, oh, bah, franchement, allez-y. Faites ce que vous voulez. Et là, avec Arnaud, notre but, c'est de le faire rigoler, quoi. Il est derrière son bureau de producteur. Et on essaie de le faire rigoler.
Oui, c'est un peu ça. Ouais.
Mais c'est pour ça que ce qui se passe sur scène, c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie. À part que dans la vraie vie, ça me fait rire. Mais on est quand même pas loin de sur scène, c'est quand même pas loin de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, y a vraiment Baptiste qui m'exaspère parce qu'il est très drôle, mais c'est fatigant parce que comme il fait 1h15 de vanne sans s'arrêter en hurlant dans le bureau, ça Arnaud qui est sur son téléphone mais que ça fait beaucoup rire donc il participe pas trop, mais il se marre donc il cautionne, et moi qui veux absolument structurer et mettre des enjeux et qui veux absolument mettre une dramaturgie autour de ça, et c'est vrai qu'en fait c'est ce qui se passe sur scène, c'est vraiment ce qui se passe dans le bureau généralement, quoi.
Alors Jérémy, Baptiste et Arnaud, ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes à la fois différents et en même temps complémentaires. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, ça match entre vous sur scène?
Ça marche vraiment bien, nous trois sur scène, parce qu'on est vraiment comme ça dans la vie. C'est-à-dire qu'on caricature nos personnalités, mais c'est vraiment nos personnalités à la base. Et c'est vraiment quand, si les gens nous voyaient dans la vie parler de sujets, débattre sur des sujets, ils retrouveraient pratiquement la même chose, presque exactement la même chose que ce qu'ils voient sur scène. On est vraiment comme ça dans la vie.
Ouais.
Donc, moi, je suis vraiment un peu, non, ça me casse les couilles, non, c'est pas bien, non, on va pas faire ça, on va être ridicule. Je suis vraiment comme ça. Arnaud qui fait, mais si, allez, ça, c'est drôle et tout. Et Arnaud et Baptiste qui juste essaie de trouver 1,5 milliard de vannes et donc fait des vannes. Et je finis par rire. Arnaud fait, tu vois, t'as ri. Et puis, non, bah, ça se passe vraiment comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est pas dur de le jouer sur scène parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que les gens, ils disent, bon, il faut toujours des impros, mais parce que comme c'est vraiment ce qui se passe dans la vie, c'est hyper facile.
Il y a une part d'impro.
En fait, ça dépend. Il y a des sketchs, les gens ont pensé que c'était parfois de l'impro alors que finalement ça n'en était pas. Il y a des gens parfois ils pensent que c'est pas de l'impro alors que finalement c'en est. Donc, non, par exemple, Notre-Dame de Paris, quand Guillaume oublie vraiment son texte, non, là c'est pas écrit, bien évidemment. Il y a des moments où on. Et puis des fois, il y a des semi-impro. C'est des semi-impro, ça veut dire que. On sait très bien à ce moment-là, c'est pas écrit, mais on se doute bien qu'il y en a un des deux qui va, ou un des trois qui va partir en cacahuète sur le truc. Mmh. Donc, ça dépend. Et puis, il y a des fois aussi, on se fait vraiment des surprises, on se fait vraiment des petits coups de pute, on se fait vraiment des trucs entre nous. Par exemple, le truc des flambis, il savait vraiment pas que j'allais arriver avec 6 flambis. Donc voilà, ça, c'est un des exemples. Donc, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Mais même quand on était tous les trois sur scène, ensemble, en tournée, on se faisait des vannes entre nous. Baptiste était sur scène, moi et Arnaud, on allait derrière les coulisses, donc les gens nous entendaient pas, mais lui nous entendait et on faisait des trucs exprès pour lui casser les couilles. Enfin, on est vraiment trois potes qui se marrent ensemble, quoi.
C'est vrai, une vraie cour de récré.
On va vous retrouver jeudi soir sur C8 pour la 9e édition des duos impossibles de Jérémy Ferrari. Il y a du beau monde aussi à vos côtés. Artus, Bérangère Krief, Michael Gregorio, Le Capucine, Guillaume Batz, Laura Felpin et plein d'autres. C'est un véritable défi de trouver chaque année, gérer le nouveau cast, Jérémy, parce qu'on le disait tout à l'heure, hors antenne, t'as eu finalement quasiment tout le monde.
C'est de moins en moins difficile avec les années. Par exemple, Florence Foresti connaissait très bien Baptiste et Arnaud. Moi, je la connaissais moins. Je l'avais croisée une ou deux fois. On avait des amis en commun, mais on se connaissait moins bien. Elle a envoyé un message à Baptiste en disant « Je suis devant les duos, c'est tellement drôle et tout ça. »
Je veux le faire. Voilà. Et Jérémy disait oh, « Ça serait génial qu'on ait Florence. » Je dis « Oui, mais faut attendre que ça vienne d'elle. » Et c'est le lendemain, à la diff, elle a dit « Je veux être avec vous sur scène. »
Elle vous a entendu.
Du coup,
là, ça, c'était super. Du coup, maintenant, on est devenu. J'ai eu la chance de la rencontrer et puis de devenir aussi ami avec elle. Mais en fait, ce qui est bien avec les duos, mais ça, c'est un peu l'histoire de ce programme. Au départ, on était en seconde partie de soirée sur C Star. Après, on est passé en prime sur C Star. Ensuite, on est passé en seconde partie de soirée sur C8. Ensuite, sur C8. Là, maintenant, à partir de l'édition 10, on sera aussi sur Canal+.
Et dans 30 ans, sur TF1.
On a démarré avec 200 000 spectateurs. On finit avec 1,5 million de spectateurs, enfin ouais. Pratiquement 1,5 million de spectateurs sans avoir poussé en promo. Donc c'est vraiment et les artistes c'est pareil. Au début on a pris des copains et puis après ceux qui étaient pas nos copains le sont devenus et ont vu le programme et ont voulu venir et ainsi de suite. Donc en fait c'est vraiment je pense la qualité du programme qui fait que tous les ans on a des castings de plus en plus faciles. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des gens qu'on aimait mais on les a de plus en plus facilement, ceux qu'on connaît moins, etc. Et on a de plus en plus de gens devant la télé.
Il y a des refus parfois aussi.
Oui ça arrive bien sûr. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'idée d'être en duo, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'idée d'aller faire un sketch qu'ils n'ont pas répété, il y en a qui ont pas envie de venir, je pense qu'il y a des gens qui ont pas envie de faire partie de ce programme, enfin c'est quand même assez rare, là franchement c'est très très rare que les gens disent non.
Je voulais revenir, c'était sur la naissance du trio, votre rencontre, l'idée à l'époque de monter sur scène, de former ce trio, c'est parti de quoi?
Ouais, il faut être honnête, à l'époque on était sur On ne demande qu'à en rire, Jérémy et moi,
ouais.
Et puis Baptiste n'était pas dans l'émission, mais en tout cas il y a eu une idée des producteurs, de nos producteurs de l'époque.
Parce qu'ils tournaient Baptiste et ils nous produisaient nous deux.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Et en fait, nos producteurs étaient les tourneurs de Baptiste. Et ils se sont dit, ce serait pas mal. Il y avait une opportunité de production à cette époque-là de les réunir sur scène, ces trois humoristes, pour faire de l'argent. Hein. Clairement, on va payer un chat.
Mais non, mais ils disaient, ils peuvent faire. Moi, je pouvais pas faire de Zénith. Ils avaient peur. Peut-être qu'en lançant les Zéniths avec Jérémy et Arnaud, que ça se casse la gueule ou quoi. Enfin, je pense que ils auraient réussi à les remplir les deux. Mais avec l'effervescence de l'émission, ils se sont dit « Bon, est-ce qu'on n'essaierait pas de réunir les trois ?» Chacun joue un bout de son spectacle et comme ça, vous vous ouvrez enfin aux grosses salles.
Et c'est comme ça que le trio est né, finalement. C'était, au départ, c'était un peu cynique, un peu une opportunité de production, mais c'est devenu une super histoire amicale.
Et voilà, et au tout départ, on devait chacun faire une heure de spectacle et puis après, on s'est dit... Bon, ça serait quand même dommage qu'on n'essaye pas de faire un peu des trucs. Bah,
autant écrire ensemble.
Oui, et voilà. Puis on s'est aperçu que. Et puis alors, après, bah, là, il y a eu cette fusion magique entre nous trois. C'est-à-dire que bah, nos trois personnalités marchent hyper bien. Parce que nos personnages respectifs, on a Baptiste qui est vraiment un spécialiste de l'humour d'observation, donc qui est très ancré dans la réalité et dans le réel. Il y a Arnaud qui est dans l'absurde et moi qui suis dans l'agressivité.
C'est-à-dire que vous êtes dans l'agressivité carrément.
Donc ce que je veux dire, c'est que non, mais du coup.
Mais c'est vrai que vous êtes différents et très complémentaires.
Mais voilà, et du coup, bah, une situation, t'as un mec qui est ouf et qui prend tout de manière très très énervée. T'as un mec qui prend tout complètement à côté de la plaque et un mec au milieu qui se retrouve à côté de deux tarés et qui essaie de normaliser la situation. Forcément, ça marche. Mais c'est un hasard. C'est vrai que ça aurait pu ne pas du tout marcher.
Et on est aussi très client de nos. Ouais. Oui, c'est mon respectif aussi. Ouais. Voilà, ouais. Moi, j'étais très fan d'Arnaud en tant que comédien de scène. Je l'avais vu, j'étais omnubilé par les qualités de comédien d'Arnaud. Je l'ai vu dans plein de pièces et dans des spectacles aussi. Et Jérémy, j'avais vu son premier spectacle, j'avais trouvé ça remarquable. Et l'association, elle s'est faite. On s'est dit, écrivons des petites vidéos. Et franchement, sans mentir, on jouait à Limoges le lendemain, notre première date au Zénith de Limoges. Et on partait la veille dans le Paris-Limoges, donc il y a 3 heures de train. On a écrit tous les sketchs entre nous trois. Dans 3 heures de trajet. Dans le train, je me souviens, on est monté dans le train, on a dit, bon, on pourrait faire ça. Les gars, on est arrivés, on a dit, bah voilà, on a écrit, on a tourné les vidéos à l'hôtel, et le lendemain, on a diffusé tout.
Et ce trio a été très vite un succès, finalement.
Alors, ça a cartonné, puis alors, à chaque fois qu'on faisait un zénith, on voyait que le zénith d'après se remplissait de plus en plus, donc il y a eu un vrai bouche à oreille. Et d'ailleurs, on va refaire l'expérience, on a essayé de remonter sur scène bientôt. On vous annoncera les dates prochainement, mais on va repartir sur scène.
Ce que j'allais vous demander, justement, parce que quand vous vous retrouvez chaque année.
Après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce trio, il n'a pas été capté ni rien, on a fait un gros succès en tournée, puis on s'est arrêté. Nous, on est restés extrêmement amis. Ensuite, on est remontés sur scène tous les trois. À l'occasion des duos impossibles, au début pour un sketch, et puis après pour deux, puis après pour une présentation, puis après une deuxième présentation. Puis finalement, c'est devenu un peu le rendez-vous, le gros rendez-vous des duos impossibles. C'est surtout notre réunion à tous les trois. Et d'ailleurs, les duos 10, l'anniversaire des duos, on va le représenter tous les trois. Et puis c'est vrai que, du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'on retourne en tournée ensemble. Et là, dans les prochaines années, on a une période où on est tous les trois libres. Donc on a essayé de remonter sur scène. Mais cette fois-ci, on va faire que de l'inédit. Il n'y aura pas un bout du spectacle chacun. On a décidé qu'on allait vraiment faire que l'inédit sur scène. Il y a de grandes chances qu'on emmène Guillaume Batz dans les valises également avec nous sur la route.
Mais tout ça, c'est pas encore officiel.
Alors, juste,
les dates sont prévues.
On est sur quoi? On est sur du 2000.
Alors, on peut pas encore donner les dates, mais ça sera très bientôt.
24, ouais. 25, 2024.
De toute façon, 2025. Sur 2024, on est encore sur scène. Donc, ça sera plutôt
2025, alors.
Ça sera plutôt pour 2025.
Jérémy, le spectacle a été enregistré à Bruxelles l'an dernier. Satisfait de cette soirée, de cette édition? Le bilan, c'est quoi?
Oui, je trouve que les éditions, alors après, c'est compliqué de dire ça. J'allais dire, les éditions s'améliorent d'année en année, mais c'est compliqué de dire ça parce qu'il y a toujours aussi, de temps en temps, des morceaux que je vais préférer dans la précédente, etc. Enfin, après, c'est selon les sensibilités de chacun. Il y a des gens qui vont préférer la 8e, il y en a qui vont préférer la 7e, il y en a qui vont préférer la 9e, mais je trouve que sur l'ensemble, c'est de plus en plus fluide parce que, on s'améliore tous. Il y a beaucoup de gens qui commencent aussi à être déjà venus, donc ce qui fait qu'ils arrivent avec encore plus de décontraction, ils se permettent encore plus de choses. Forcément, ça s'améliore. Donc, moi, je suis de plus en plus content d'aller faire les duos. J'avais peur, hein. Vous savez, quand on est arrivé à la 6e édition, 7e édition, je me suis dit, est-ce qu'on va arriver tous les ans à en refaire? Et puis en fait, c'est de plus en plus drôle et de plus en plus facile de les faire.
Et de plus en plus confiant aussi, parce que comme on le disait hier, il y a aussi ce côté casse-gueule d'écrire et de jouer pour une seule et unique représentation.
Oui, mais maintenant en fait, on a tellement trouvé le mécanisme, on a tellement compris aussi ce que les gens voulaient. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est ils veulent voir des gens qu'ils connaissent dans des situations qu'ils ne connaissent pas. En gros, c'est ça l'idée, c'est de mettre Ferrari en costume, c'est de mettre Florence Foresti en Blanche-Neige. Bon, après, c'est pas que du costume, c'est aussi de voir Paul Mirabel s'attaquer à Vladimir Poutine. Ouais. Voilà, des choses en fait qu'ils ne verront jamais de leurs humoristes préférés. Et moi, je pousse à ça. Donc en fait, ce qui est génial, c'est de voir Michael Gregorio avec moi et Arthus sur scène, tu le verras jamais ailleurs, à part sur les duos impossibles. Donc, ce qui est cool, c'est ça, c'est d'arriver à créer des situations que les gens ne verront jamais ailleurs, avec cette tension quand même, parce que c'est sans filet, on l'a jamais répété, on sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impro, beaucoup de fou rire entre nous. Et moi, je les conserve à l'image, même les ratés, même les loupés, parce que c'est ça que les gens, je pense, viennent chercher. Ils ne savent pas ce qui va se passer et on sait pas non plus. Donc, tout le monde part sans filet sur un spectacle qui dure de presque 3 heures sur scène. Après, on fait un montage quand même pour la télévision, on fait 2 heures et quart environ à la télé. Mais c'est ça, parce que pour moi, l'humour, c'est la surprise et c'est la sincérité. Moi, j'ai toujours basé tout ce que j'ai fait en disant il faut être sincère avec le public. Et donc là, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas eu de relecture. On a écrit et on vient le jouer.
Sans filet.
Sans filet.
L'an prochain, tu vas fêter le 10e anniversaire, les 10 ans des duos impossibles. On sait déjà où ce sera ou pas encore?
Oui, on sait que ce sera au Grand Rex.
À Paris, donc.
Ça sera à Paris cette année.
Il y a déjà des idées arrêtées dans le casting?
Oui, alors je vais pas trop en dire, mais disons que là, l'idée, c'est d'aller chercher et les gens qui ont le plus marqué ces 10 ans. Donc je les ai pas tous appelés, donc je vais pas balancer les noix à l'antenne parce que je veux pas qu'ils l'apprennent de cette manière. Mais je vais aller chercher un peu. Vous savez, c'est assez simple. Comme on a la chaîne des duos impossibles, on voit un
sur
peu
YouTube,
aussi,
ouais.
on voit un peu les sketchs que les gens ont préférés. On voit un peu les, et donc je pense que l'idée, ça serait de faire ça et puis d'avoir quelques guests vraiment inattendus, quoi. Des gens qu'on n'imagine pas être avec nous sur scène. Donc ça, j'ai déjà des idées. Je vais commencer à appeler les gens, mais j'ai déjà eu quelques réponses chouettes là. J'ai déjà eu des oui de gens. Le public sera très très content de les voir.
Alors Jérémy, tu présentais dernièrement sur C8 une nouvelle édition de tes duos impossibles. On a donc découvert pour l'occasion des sketchs inédits avec des invités prestigieux. Et puis en parallèle, tu es toujours en tournée avec Anesthésie Générale. C'est ton dernier spectacle consacré au thème de la santé. Il sera d'ailleurs à l'affiche de l'Accor Arena à Paris les 9 et 10 mars 2024. Il y a très peu d'humoristes qui se produisent dans cette salle, donc à l'Accor Arena à Paris. Comment on crée, je dirais, de l'intime dans de l'infiniment grand dans une salle comme celle-ci?
Faut pas, moi, personnellement, là, je cherche pas de l'intime. Ça serait absurde d'aller chercher de l'intime sur une salle sur une salle aussi grande. C'est pas là. Moi, en l'occurrence, je ne parle qu'en mon nom, hein. Moi, ce que je cherche, c'est l'inverse. Je cherche un grand spectacle.
Donc le show, la démesure.
Oui, mais alors, après, ce qui est bien, c'est que moi, je ne me serais pas permis d'aller sur ce type de salle si j'avais pas pu déjà tester mes shows sur des grandes salles. Si je prends l'exemple du Cirque Royal, pas du Cirque Royal, de Forêt Nationale, parce que j'ai l'affiche de Bruxelles devant moi, mais on a fait Forêt Nationale il y a quelques semaines avec Anesthésie Générale, on était devant 6000 personnes. Donc on est déjà sur la tournée Zénith, on a joué chaque soir entre 3500 et 6000 personnes. Donc je sais déjà que le show le permet. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Est-ce que le show le permet? Oui, le show le permet. Pourquoi? Parce que c'est un show qui est extrêmement énergique, parce que je descends dans le public, parce que les propos sont forts, parce que il y a du fond dans le spectacle, ce qui fait que avoir 5000 personnes ou 6000 personnes qui tout d'un coup sont dans un silence parce que j'ai sorti un truc dérangeant ou parce que j'ai sorti un truc d'émotion, parce que ce spectacle a aussi pas mal d'émotion, ou d'avoir 6000 personnes qui éclatent de rire ou qui s'offusquent ou qui se choquent en même temps, ça donne une énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ensuite, c'est de mettre les moyens techniques pour que tout le monde passe une bonne soirée. Ça, c'est extrêmement important. Il faut pas chercher à gagner beaucoup d'argent sur ces dates. Il faut se dire, on les fait. Si on gagne, tant mieux. Mais l'important, c'est que tout le monde passe une bonne soirée. Donc, on met des kits techniques qui sont énormes en termes de lumière, en termes de son. Le mec qui est assis tout au fond de l'Accor Arena, il entendra aussi bien que le mec qui est devant. Ça, c'est très important. Moi, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont assis loin de la scène. Donc, croyez-moi que je ferai en sorte que même la personne au fond passe une bonne soirée.
Le spectacle, lui, avait été lancé juste avant l'arrivée du Covid. Il a beaucoup évolué, j'imagine, depuis.
Bien sûr.
Il y a toute une partie qui a été réécrite, c'est ça, hein?
C'est surtout que c'est pas une partie qui a été réécrite, c'est que j'ai réécrit une partie.
Oui.
Ce qui est différent, c'est que du coup, le spectacle s'est allongé. Parce que j'avais un spectacle qui parlait déjà de la santé, des problèmes de ce système de santé qu'on a en France, qui est mal financé et sous-financé. Donc je disais déjà à l'époque, avant que le Covid n'arrive, je disais déjà, si un jour il y a un gros problème, on saura pas le gérer, puisque déjà là il y a pas de gros problème et on sait pas le gérer. Donc ce qui fait que j'ai pas eu à réécrire, j'ai juste l'événement a confirmé mes dires. Et après j'ai fait toute une partie en plus pour traiter la gestion de ce Covid, c'était pas possible de passer outre. Alors ce qui fait que ça donne un spectacle qui dure 2h50, donc c'est voire 3h, voire plus des fois quand je suis parti en impro et que le public me suit. Donc c'est long pour un spectacle d'humour, mais en même temps je l'ai testé parce qu'au début je me suis dit bon, ça fait quand même un peu long, donc je vais le tester comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis les gens me disaient non, en fait c'est génial, on s'ennuie pas, on voit pas le temps passer. J'ai dit bon bah écoute, c'est tout, ça fera un spectacle de 3 heures, et puis voilà. Je dis pas que je le referai dans les prochains, je pense.
Donc
que je reviendrai à un format
4 heures sur la scène de Bercy.
non, pas 4 heures. Non, mais on va prévoir des surprises. Par contre, il y aura beaucoup de surprises en images, il y aura des guests.
Voilà, des guests, j'allais dire, ouais, sur scène.
Oui,
aussi.
Oui, on va le faire. On va faire en sorte que les gens passent une soirée assez exceptionnelle.
On le disait tout à l'heure, ce spectacle a été lancé juste avant l'arrivée du Covid, donc Anesthésie Générale sur le thème de la santé. Dans le passé, il y a eu Vent de pièces à Beyrouth alors qu'on était en plein dans les attentats. Histoire de nous ambiancer un petit peu, est-ce que tu peux nous donner d'ores et déjà le thème du prochain spectacle à venir ?
Ça sera très certainement sur l'écologie. Je peux changer d'avis entre temps, hein, mais a priori, ça sera l'écologie parce que c'est moi je suis un amoureux de la nature et des animaux, donc c'est un peu basique, mais c'est la vérité. Ce qui fait que je commence à m'inquiéter quand même sérieusement de ce qui se passe sur notre planète. Donc j'ai envie, même pour moi, j'ai envie de creuser parce qu'en fait j'ai envie de comprendre le vrai du faux, parce qu'en fait je m'aperçois que tout le monde parle sans vraiment savoir. On sait pas vraiment quoi faire, on sait pas ce qui est vraiment utile, ce qui n'est pas utile. Donc je pense que ça peut être bien pour les gens qui sont débordés encore d'informations et d'avis, d'avoir quelqu'un d'un peu neutre qui va s'y mettre, comme j'ai toujours fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On dit le nucléaire, c'est bien, c'est pas bien. Les voitures électriques, c'est bien, c'est pas bien. On ne sait pas, en vrai, on ne sait pas. On ne comprend pas, on n'a pas assez de recul. Et on n'a que des gens très énervés, pour l'un pour ou contre, qui s'engueulent entre eux. Ce qui fait que nous, on est au milieu, on dit, du coup, on fait quoi ? Donc quand il y a des situations comme ça, j'aime bien me mettre dedans pour essayer d'aller chercher, entre guillemets, la vérité, même si... C'est un grand mot parce que la vérité, je sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas voilà.
T'es déjà allé chercher cette vérité, t'as commencé à creuser le sujet ou pas encore ?
Je commence un petit peu, maintenant c'est pour 2026 ce nouveau spectacle, donc là on a quand même évidemment la fin de ce spectacle, on a la tournée du trio, on a des films, j'ai un livre en prépa, donc là j'ai beaucoup de choses, ouais. Et quand je mets sur le spectacle, généralement je coupe tout le reste, ce qui fait que je vais m'y attaquer certainement à partir de 2024
pour 2026,
ouais, c'est ça.
Merci infiniment Jérémy d'avoir été avec nous cette semaine. Le replay des duos impossibles est disponible depuis ce matin. Il y a aussi ta chaîne YouTube sur laquelle on retrouve un gros catalogue des précédentes éditions, et puis tes sketchs évidemment qui sont à écouter au quotidien sur Rire et Chanson. Merci à toi et merci à vous.
Merci beaucoup.